tous en mode bonne conduite.
Avec Info RC,
attachez vos ceintures. On vous embarque à bord d'une intervention sur la sécurité routière.
L'action de prévention routière, tous en mode bonne conduite, est soutenue par l'auto-école Anne Boiron, Point S, la carrosserie Vernet, l'éducation nationale et la préfecture de l'Ardèche.
La sécurité sur la route, ça nous concerne tous. On pense souvent que les accidents, ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, que l'on soit en voiture, en vélo, en trottinette ou même à pied, avec ses écouteurs, la route n'est jamais 100% safe. Aujourd'hui, on parle avec deux invités qui connaissent bien le sujet.
Walter Lévesque, représentant de la Fédération française des motards en colère et bénévole à la Mutuelle des motards. Elvis Goiffon, président de la Biker Spirit Academy.
Bonjour.
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 Walter, qu'est-ce que la Fédération française des motards en colère et pourquoi vous engagez-vous aussi à la Mutuelle des motards ?
Alors, la Fédération française des motards en colère est une association du type loi 1901 qui existe depuis 40 ans. C'est des motoclubs qui ont lancé cette fédération qui a pour but de promouvoir la pratique, la défense des motards et en règle générale associée au monde de la moto en général, à la circulation en deux roues motorisée. La Mutuelle des motards, c'est une émanation de la Fédération française des motards en colère, tout simplement parce que dans les années 80, il était très difficile de s'assurer. Il y a beaucoup de gens qui roulaient sans assurance, beaucoup de motards qui roulaient sans assurance. Je me suis engagé à la FFMC parce que j'ai fait partie des dinosaures. Et puis la Mutuelle des motards parce que j'étais membre fondateur de la Mutuelle des motards. Et puis voilà, j'adore la moto, j'adore le deux-roues motorisé que je pratique régulièrement. J'ai passé mon permis en 72 et je n'ai jamais arrêté.
Elvis, vous avez créé la Biker Spirit Academy. En quoi consiste-t-elle ? Pourquoi l'avoir fondée ?
C'est la réunion de plusieurs facteurs qui m'ont donné cette idée. Le premier facteur, c'est parce que je suis fils et petit-fils de motard. Mon grand-père maternel roulait déjà à moto. Ma maman, à l'âge de 3-4 ans, était déjà sur la moto avec son papa. Moi, j'ai grandi sur une moto. J'ai eu ma première moto, j'avais 12 ans. Donc la moto fait partie de ma vie. Donc j'ai découvert ça très tôt. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai été fonctionnaire de la police nationale. J'ai d'abord commencé ma carrière comme CRS sur autoroute. La particularité, c'est que quand on est flic sur l'autoroute, eh bien, on gère beaucoup, beaucoup d'accidents de la route. Et malheureusement, j'ai souvent dû intervenir auprès d'accidentés de la route qui étaient des gens qui conduisaient des motos. Ensuite, de plus en plus aujourd'hui, on peut constater aux infos, hein, quelles que soient les chaînes ou les radios, que les comportements sur la route des jeunes motards sont de plus en plus difficiles à cadrer. Et si tous les moyens de répression, c'est-à-dire si tous les moyens pour leur interdire de faire certaines choses existent déjà, je trouve qu'il y a très peu de moyens encadrants. C'est-à-dire plutôt que toujours interdire de faire des choses aux jeunes, j'ai une approche plus pédagogique et je pense qu'il est plus intéressant de compléter ces interdictions par une éducation à leur montrer comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelles conditions. C'est pour ça qu'on a créé la Biker Spirit Academy. C'est donc une association loi 1901, comme la FFMC. Et l'objectif, c'est de transmettre un esprit motard. Plutôt que de faire des choses ou interdire des choses, on va essayer de faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'il est important de connaître, de savoir et de comment faire.
Maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous et vos parcours, on va entrer dans le vif du sujet.
Les comportements à risque sur la route. Pour vous, quel est le comportement à risque le plus courant chez les jeunes sur la route ?
Alors pour moi, le comportement à risque le plus bon pour les jeunes, c'est essentiellement oublier qu'on est vulnérable. Faire du deux-roues motorisé, c'est dangereux. On n'a pas de carrosserie, hein, c'est bien sûr, c'est tout simple à comprendre. Il y a ça. Et ensuite, par rapport aux jeunes, quand on est jeune, J'ai été jeune, hein, comme tout le monde, des comportements à risque, j'en ai eu. Donc voilà, on pense qu'on est invulnérable, on pense que voilà, on a toute la vie devant soi et tout. Et puis, il y a aussi une autre chose importante, il y a ce qu'on appelle le partage de la route, c'est-à-dire que sur la route, on n'est pas tout seul.
Les ados sont-ils vraiment plus imprudents que les adultes ou est-ce un cliché ?
Personnellement, je ne parlerai pas d'imprudence. Je parlerai d'éducation, d'information, de formation. Parce que je fais de la moto depuis plus de 40 ans. J'ai, grâce à mon comportement et comme on dit des fois, grâce à Dieu, j'ai pas eu d'accident grave en 40 ans. Mais les seuls accidents que j'ai eus, bah, ils ont été de la faute d'adultes, pas de la faute d'ado. Donc je ne parlerai pas d'imprudence, je parlerai de méconnaissance. Et donc, derrière le terme méconnaissance, souvent, je parlerai de comportement stupide. C'est une forme de stupidité par méconnaissance. Par contre, les adultes, vu qu'ils sont plus âgés, qu'ils ont plus d'expérience de vie, eux, à un moment donné, c'est plus de la bêtise, c'est effectivement de l'imprudence. Et je pense qu'il y a aussi toute une éducation à refaire pour beaucoup, beaucoup de chauffeurs de voitures, de cars, de camions, de motos, même de trottinettes. L'imprudence, c'est la conséquence d'une méconnaissance.
Vous souvenez-vous de votre première grosse frayeur sur la route ?
Grosse frayeur, une plus qu'une autre, non. Mais des frayeurs, j'en ai. J'en ai tous les jours. Je veux dire, voilà, là, je suis venu ce matin, c'est pas une frayeur. Voilà, j'ai pris la route, moi, j'habite Auteuil. Bah, y a une voiture qui me suivait, elle était à 1m50 derrière moi, quoi. Alors en voiture, le gars qui est derrière en voiture, si je suis en voiture, je vais freiner devant, il va me tamponner parce qu'il n'arrivera pas à s'arrêter. Voilà, ça c'est les lois physiques. Hein. Donc en voiture, je vais avoir la voiture qui va être abîmée. Dans le meilleur des cas, voilà, il y aura de la tôle et tout. En moto, l'affaire ne sera pas la même. Donc je ne veux pas dire que c'est des grosses frayeurs, mais des frayeurs c'est qui fait que quand je circule en deux roues, et en voiture maintenant, je suis même déformé quand je roule en voiture, j'ai toujours à l'esprit ma vulnérabilité. La première chose, moi, quand quelqu'un qui est assuré chez nous m'appelle en me disant « j'ai eu un accident », la première question que je lui pose, c'est « est-ce que tu t'es fait mal ?» La ferraille, la moto, le machin, même des motos à 30 000 euros, à la limite, ça me passe au-dessus. Voilà.
En deux roues, rouler sans gants ou avec un véhicule débridé ? Simple imprudence ou vrai danger ?
Alors, c'est deux approches différentes. Rouler sans gants, c'est de l'imprudence. Parce que si aujourd'hui, on est obligé d'avoir fait des lois pour obliger les motards à porter des gants, c'est que quelque part, il n'y avait pas eu donc cette éducation dont je parlais juste avant et qu'il a fallu mettre en place une structure légale pour leur dire « si tu ne mets pas tes gants, maintenant tu vas être puni, tu vas prendre une amende ». Pourquoi ? Parce que, de ce que j'en sais, mais Walter pourrait confirmer ou infirmer, c'est que statistiquement, les mains, quand on est à moto et qu'on tombe, c'est les mains, les coudes, les genoux qui ramassent le plus. Donc, comme ça coûte beaucoup d'argent après, aux assurances et donc aux contribuables et à ceux qui payent leurs assurances, on a été obligé d'obliger les gens à porter des gants. Donc là, pour moi, ça, c'est une forme d'imprudence, d'irresponsabilité même.
Vous, même quand vous marchez ou quand vous êtes en vélo, en trottinette, le réflexe naturel du corps humain, c'est de mettre ses mains à l'envers. On veut se protéger. Et c'est ce qui dérouille en premier, qui est esquinté le plus vite. Voilà. Dans les sinistres en moto, vous avez les mains, vous avez les membres inférieurs. Et oui. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la tête. La tête, il y a le casque, bien sûr, il y a des traumatismes crâniens qui sont énormes, mais les parties du corps humain qui dérouillent le plus, ce sont les mains, les membres inférieurs. Quand j'ai les membres inférieurs, y compris les pieds. Voilà. Pour ça que quand on fait du deux roues, il ne faut pas s'arrêter aux gants et à ce qui est obligatoire par la loi. En France, vous pouvez faire de la moto en maillot de bain avec juste les gants et le casque. Voilà. Après, moi, je laisse tout le monde juge de ça. Je pense que ça, c'est du ressort de chacun. Quand il fait chaud, ben moi, je m'équipe. Voilà. Il fait chaud. Ben oui, il fait chaud. Donc, j'ai le blouson, voilà, j'ai les gants, j'ai les chaussures montantes, le pantalon, etc. Voilà.
Concernant le véhicule débridé, je fais la différence entre un 50 débridé et un 50 sur lequel on a monté un kit. Concernant le débridage, au risque de surprendre certaines personnes, Je pense que débrider un petit 50, dans certaines circonstances, c'est presque nécessaire. Parce que lorsqu'on a un 50 à vitesse entre les jambes et le guidon dans les mains, si on n'a pas cette puissance, dans certains cas, c'est le manque de cette puissance qui va faire qu'on a l'accident. On aurait pu éviter l'accident si on avait pu donner un petit coup de gaz et éviter ou échapper au danger. Donc, en ce qui concerne le débridage, je lance un appel à celles et ceux qui sont censés légiférer dans notre pays, donc à nos élus, à nos députés, etc., qui se renseignent véritablement auprès de vieux motards, comme on dit, qui fassent des enquêtes, des statistiques, parce que je pense que le fait de débrider la moto, un petit 50 cm3, dans 90% des cas, c'est nécessaire. Par contre, quitter, mettre un kit, ça, c'est modifier la puissance nominale, la puissance de l'origine du véhicule. Ça veut dire qu'après, les freins, les pneus, le cadre, c'est plus adapté. Et ça, c'est dangereux. Quitter et augmenter la cylindrée du véhicule, c'est interdit par la loi. Et de toute façon, si vous vous faites prendre, dans pas mal de cas, vous allez avoir un coup de perceuse dans le cylindre, vous ne pourrez plus rouler avec votre moto, ou elle va vous être confisquée. Ou pire que ça, si vous avez par exemple mis un kit 80 ou 90 cm3 sur un 50 et que vous vous faites prendre par les forces de l'ordre, et ben vous serez condamné pour avoir roulé sans permis. Parce qu'au-delà de 50 cm3, il faut un permis de conduire. Donc ça peut aller très loin les conséquences. Mettre un kit, augmenter la cylindrée, augmenter la puissance pour pouvoir rouler à plus de 100 km/h avec un engin qui à la base n'est pas prévu pour, ça c'est stupide, c'est dangereux, c'est de l'inconscience et c'est interdit de toute façon, c'est interdit par la loi. Donc il n'y a même pas à discuter.
Quel comportement dangereux observez-vous le plus souvent chez les conducteurs de deux roues ?
La moto, c'est la moto de deux roues motorisée, c'est ludique. Quand je dis ludique, ça veut dire qu'on se faufile mieux, on a des accélérations pour des gens qui n'ont jamais fait de deux roues motorisées, qui n'ont jamais fait de moto, on a des accélérations qui sont quand même assez impressionnantes. Donc ça pousse un peu à avoir un comportement déviant. Donc il faut toujours rester consciente de ses limites et aussi consciente du fait qu'on est tous ensemble, on partage tous un espace commun, la route, qu'on soit en trottinette, en vélo, à pied, en camion, en voiture. On évolue là-dedans. Alors je vais donner un exemple très simple. Ça existe depuis quelques années. Vous avez déjà remarqué, les motards, quand ils sont en groupe ou quand ils sont juste derrière une voiture, souvent le véhicule, la voiture devant, elle se serre sur le côté pour faciliter le passage de la moto. C'est ce qu'on appelle la remontée de file. Maintenant, il y a un problème quand on parle de comportement. Il y a celui qui remonte la file à 30 à l'heure, en se disant, attention, il y a peut-être un piéton qui va traverser, le gars en voiture, peut-être devant, il va faire demi-tour, il va peut-être juste regarder, mais à peine il va faire demi-tour, puis moi, si j'arrive à 80, voilà. Et tout ça, c'est être conscient des dangers qu'on peut avoir soi, mais aussi qu'on peut générer envers les autres. Tout ça, c'est encore une fois, ça paraît être du bon sens. Voilà, réfléchir, se dire, voilà, je partage un espace, voilà. Je voudrais faire une petite parenté, une petite parité. Vous êtes jeune, donc il y a beaucoup de jeunes qui circulent en trottinette. Ben, les trottinettes, ce qu'on appelle les EDPM, il y a énormément de comportements à risque avec les EDPM, alors qu'il existe une réglementation. Quand les parents achètent une trottinette à leur enfant, à leur fils, à leur fille, il faut qu'ils se renseignent un peu sur la façon dont on pratique ce genre de véhicule. Voilà.
Pour ce qui me concerne, le principal comportement à risque chez les conducteurs de deux roues, et moi je parle plus particulièrement des jeunes, parce qu'avec la Bikers Academy, on s'adresse aux 14-17 ans, qui ont des 50, c'est les fameux wheeling. Alors c'est vrai, ça fait classe, ça donne des sensations, mais c'est un niveau d'irresponsabilité qui, je pense, mériterait qu'on supprime le véhicule. Il y a quelqu'un qui fait une roue arrière en ville ou sur la route, sur une route ouverte. La route ouverte, c'est la route qui est ouverte à tout le monde, piétons, voitures, motos, etc. On fait un wheeling sur une route ouverte, on devrait avoir le droit de détruire le véhicule. Parce que ça, en plus, il ne pourrait pas le récupérer, ça lui coûterait bien du fric, et il comprendrait bien qu'il ne recommencerait pas, avec une interdiction de passer le permis ou de repasser le permis de conduire pendant 5 ans. Moi, je serais très sévère avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire des wheelings. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place à la Biker Spirit Academy. C'est on va organiser avec certains établissements spécialisés, notamment il y a des écoles de cascade avec des cascadeurs professionnels, où il y a des endroits où on peut apprendre à faire des wheelings, mais en toute sécurité. C'est dans un cadre légal, avec des gens qui sont formés, des motos et des équipements qui sont faits pour ça. Et là, on peut aller se taper un trip et se taper un délire et faire des concours de wheeling. Là, moi le premier, je serais super content de pouvoir aller m'éclater dans ma tête, hein, et pas physiquement, aller pouvoir m'éclater à faire des wheeling sur une bécane puissante, etc. Mais en aucun cas, on doit faire des wheeling dans la rue, et encore moins en ville, et encore moins sans casque. D'ailleurs, je crois savoir qu'il n'y a pas longtemps, un peu avant le mois d'août, là, pendant les grandes vacances, il y a un jeune de 14 ou 15 ans qui a fait un wheeling sans casque, ici à Aubenas. Et il n'allait pas vite, hein, parce qu'on fait un wheeling, on va à 30 km/h, c'est pas beaucoup en soi. Sauf qu'il a perdu l'équilibre, il est tombé au sol, donc il n'est pas tombé vite, il n'est pas tombé fort, sauf qu'il est mal tombé sur sa tête, il est mort sur le coup. Mais encore une fois, je rejoins mon ami Walter qui dit que c'est une question d'éducation. Et je crois que les premiers responsables, quand ils achètent un 50 à un enfant, ben, ce sont les parents. Pas en tout, mais en partie. Et notamment sur comment il va l'utiliser, comment je vais lui expliquer, comment je vais le surveiller, comment je vais le sensibiliser. Qu'ils prennent conscience le plus simplement possible et le plus rapidement possible que lorsqu'on a une machine à moteur entre les jambes, eh ben, cette machine, dans certaines circonstances, ça peut devenir une arme.
Pour les jeunes conducteurs, le plus grand risque, c'est la vitesse, l'alcool ou le manque d'expérience?
Les trois, voilà, tout simplement. L'alcool, ça déforme la vision. Quand on roule sous emprise alcoolique, ben, on a moins de réflexes, on a la vision qui est altérée, etc. De même pour les stupéfiants, hein, c'est pareil. Par exemple, les stupéfiants, vous avez des produits qui sont euphorisants, hein, tout ce qui est protoxyde d'azote, vous savez, les bonbonnes de gaz, etc. Donc là, ça rend invulnérable sur la route. Les gens, ils sont exubérants, ils sont si, donc ils n'ont plus notion du danger, plus du tout. Après, vous avez tout ce qui est psychotrope et tout. Ben vous avez les gens, ils ont un défaut de vision, ils ont un défaut. Tout ça, c'est des choses qui altèrent la conduite. Voilà.
Pour répondre à cette question, à la Biker Spirit Academy, on a des petites phrases pour se rappeler de certaines choses. La première que je demande d'apprendre par cœur aux élèves, c'est « à moto, je bois de l'eau et pas de bédo ». Pourquoi ? Parce que boire de l'alcool, même une bière, c'est irresponsable. C'est la base. Si on veut être un vrai motard, c'est vraiment la base des pensées qu'on doit inscrire dans son esprit. Concernant la vitesse, je mets un bémol. La vitesse, c'est pas un facteur accidentogène. Je suis désolé, ça va faire réagir beaucoup de gens peut-être, mais je suis prêt à en débattre. J'ai eu des statistiques quand j'étais à la brigade des délégués routiers de Lyon. Le premier facteur accidentogène, bah, c'est l'humain. C'est le manque d'attention. C'est le manque de compétences. Par contre, c'est un facteur aggravant si jamais on a un accident. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dois adapter la vitesse à laquelle je me déplace avec mon véhicule en fonction de l'environnement dans lequel je me trouve. C'est pour ça qu'en ville, c'est limité à 50 et que sur l'autoroute, c'est limité à 130. Ça paraît évident. Quand on y réfléchit, on dit « bah oui, je ne vais pas rouler à 130 en ville. Sinon, je vais me bouffer tous les piétons, toutes les voitures, je vais toucher de partout. » Enfin, ce serait irresponsable, c'est même pas réalisable. Ben, là, c'est la même chose. Et encore une fois, c'est une question de formation, de sensibilisation, d'explication, d'accord, et donc de maturité d'esprit.
Les terrains de jeu de beaucoup de motards ici, c'est le Vercors, c'est les gorges de l'Ardèche et tout. Et on leur rappelle que ça n'est pas un circuit. C'est-à-dire, quand on est en moto, bien sûr, il est beaucoup plus agréable de rouler sur les routes de montagne qu'en ligne droite, etc. Et à ce titre, nous, la FFMC, on organise chaque année 2 journées pistes sur circuit. Voilà. Moi, dans le cadre de la Mutuelle des Motards, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle les Open de la Mutuelle. On ne va pas faire des gens qui vont venir à ces journées qui se déroulent sur circuit. Ici, dans la région, c'est le circuit d'Alès et le circuit de Lédenon, à côté de Nîmes. On ne va pas faire du jour au lendemain des gens, des pilotes chevronnés, parce que c'est un métier d'être pilote. Pilote de course, c'est un métier. On va apprendre aux gens à se faire, à connaître leur moto différemment sur un endroit où tout est sécurisé. C'est-à-dire, ils vont tomber, eh ben, il y aura quelqu'un pour les ramasser. Il n'y aura personne qui arrivera en face. Le goudron est en bon état. Il n'y a pas de gravier. Donc la vitesse en elle-même, je rejoins Elvis, ça n'est pas dangereux. Quand vous roulez à 50 à l'heure, ben, vous roulez, si c'est limité à 30, vous faites de la vitesse. Je suis désolé. On ne peut pas considérer que 50 à l'heure, ça soit énorme. Mais si vous faites du 50 à l'heure devant une école ou maternelle, où vous avez des gamins qui sont... Hein, un gamin qui est sur le bord du trottoir, son ballon, il va partir. Lui, il ne va pas regarder avant de traverser. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de récupérer son ballon. Et ben là, ça se conçoit aisément. Après, il y a d'autres endroits où, franchement, vous avez des portions qui sont limitées, où on peut se poser la question de cette limitation. Après, c'est basé sur des statistiques. Hein. Souvent, c'est des statistiques d'accidents, etc. Et ça, il faut en tenir compte.
Pour terminer sur la vitesse, j'aimerais préciser qu'à la Bikers Academy, pour les élèves qui viennent suivre nos cours, on organise des courses de lenteur. Parce que dans le monde de la moto, il y a les courses sur piste, mais il y a aussi, chez les bikers, ceux qui ont des motos custom à l'américaine, eh ben on fait des courses de lenteur. Et c'est le premier arrivé qui a perdu. Et ça demande une autre forme de technique pour arriver à maîtriser sa moto, pour rouler le plus doucement possible. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil que je fais juste sur ce sujet-là. En ce qui concerne le manque d'expérience, c'est ce qu'on essaye aussi de combler en apprenant le plus tôt possible, donc à des jeunes de 14-17 ans, à acquérir une expérience, mais à acquérir une bonne expérience avec une bonne mentalité, d'où le terme spirit qui veut dire esprit, avec l'esprit motard.
Certaines personnes roulent sans assurance. Quels sont les risques ?
Ils sont énormes. Les risques sociaux déjà, parce que rouler sans assurance, ça veut dire que si soi-même on se fait mal, hein, c'est embêtant. Mais si on crée du dégât à d'autres, à des tiers, ce qu'on appelle des tiers, c'est énorme. C'est des choses qui peuvent engager une vie complètement. Alors je ne parle pas du côté moral. Hein. Le côté moral, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre sur la route, au volant de sa voiture ou de sa moto, voilà, c'est quand même moralement, quand vous avez ça dans le coin de votre cerveau, ce n'est pas facile. Les conséquences sont énormes. Les risques de rouler sans assurance, ben, c'est simple, hein, vous avez un accident avec quelqu'un, donc bien sûr, les forces de l'ordre vont intervenir, les pompiers vont intervenir, les services médicaux vont intervenir, tout ça va être pris en compte, et puis après, ben, il y aura, alors je vais parler crûment, hein, je vais dire, il y aura une addition, voilà, ça coûte tant, ça coûte tant, etc. Et puis après, eh ben, on va se retourner contre la personne qui n'est pas assurée, qui n'est pas ci, qui n'est pas là. Et ça monte très vite. Côté argent, ben, vous avez des gens qui... Voilà, ça fait 40 ans qu'on retient sur leur salaire une certaine somme d'argent pour essayer de combler ce qu'ils ont fait coûter à la société. Et quand ils sont pas solvables, eh ben on tape dans la famille. Voilà, faut le savoir, ça. Ça, c'est une chose et c'est plus fréquent qu'on ne pense.
Un jeune homme ou une jeune fille qui roule avec un 50, il ne devrait pas pouvoir rouler sans assurance. Pourquoi ? Parce que quand j'ai 14, 15 ou 16 ans ou 17 ans, je suis mineur, je suis sous la responsabilité civile et pénale de mes parents. Donc si je roule sans assurance, c'est parce que mes parents, ils s'occupent pas de moi. Hein, moi j'ai un fils qui aujourd'hui a 25 ans, à 14 ans il a voulu un 50, je me suis occupé de lui, je lui ai appris à conduire, je suis allé chercher sa moto avec lui, et c'est moi qui payais son assurance. Et je vérifiais son comportement sur la route, parce que des fois je le suivais sans qu'il le sache. Voilà, j'étais responsable de mon enfant. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, le premier point, je pense que c'est de refaire un peu d'éducation aux parents pour qu'ils puissent la faire à leurs enfants. Ensuite, pour les enfants qui pourraient essayer de feinter pour rouler un peu leurs parents, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que si on roule avec son 50 sans assurance et qu'on renverse une personne, la personne Elle va avoir une jambe cassée, hein, on va rester dans des trucs pas trop graves. La personne, elle a une jambe cassée, elle va plus pouvoir aller au boulot pendant 2 mois, il va y avoir des frais médicaux, etc., etc. Si le jeune qui roule avec son 50 n'est pas assuré, c'est la responsabilité civile de ses parents qui va être engagée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne qui a été victime, elle va prendre un avocat, elle aura une assurance pour sa maison, donc elle aura une couverture juridique. Et donc tous ces gens dont c'est le métier de préserver les droits des gens, ils vont se retourner contre les parents du jeune qui roulait sans assurance, et ça peut aller jusqu'à faire vendre leur maison pour devoir payer les dommages d'intérêt. Donc ça peut être très grave. C'est-à-dire qu'un jeune qui roulerait sans assurance, je ne sais pas comment, en mentant à ses parents, il peut ruiner ses parents, ses frangins, ses frangines, si jamais il commettait quelque chose de grave.
Bon, là, on parle par exemple, Elvis a parlé des 50, mais par exemple, ce phénomène qui est devenu à la mode, hein, des EDPM, hein, les agents de déplacement personnel motorisé, les trottinettes. Il faut savoir que toute trottinette électrique circulant en France doit être assurée. C'est pas Walter Lévesque travaillant bénévolement pour une compagnie d'assurance qui vous le dit, c'est la loi. Donc si vous avez parmi vous des jeunes de plus de 14 ans qui ont des trottinettes électriques, la première question, quand tu es jeune, c'est de demander à tes parents, papa, maman, est-ce que je suis assuré pour la trottinette ? Voilà, de bien vérifier, parce qu'il y a des assurances, c'est compris dans la responsabilité civile, mais il y a beaucoup d'assurances qui ne le font pas. Donc ça, c'est une chose très importante.
Difficile d'éviter le sujet du téléphone et des réseaux sociaux, qui prennent une grande place chez les jeunes. Le téléphone et les réseaux sociaux, c'est à quel point dangereux ?
Ça occupe beaucoup les jeunes, les réseaux sociaux, le téléphone. Mais moi, je ne veux pas stigmatiser une partie de la population. Les conducteurs en voiture, les adultes, hein, pas des jeunes, les adultes, il y a énormément de gens qui continuent à téléphoner. À ce titre, qu'il y a même des... Il y a des gens qui ont proposé, enfin qui ont, voilà, moi j'ai entendu ça après la fois, de carrément supprimer le permis de conduire. Suspendre le permis de conduire pour ça. Que dire ? Quand vous êtes en train de téléphoner, quand vous êtes en train de téléphoner en voiture ou en moto, parce qu'il y a des motards aussi, ben vous avez une partie de votre cerveau, des facultés cognitives qui sont occupées pour répondre, pour ci, pour là. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est une réalité. Il y a eu des études qui ont été faites. Quand vous conduisez un véhicule, quel qu'il soit, la moindre tâche que vous faites qui ne correspond pas à la conduite du véhicule, avant, on a eu des études. Par exemple, les gens, on s'est rendu compte que les gens qui fumaient en voiture avaient plus d'accidents que les gens qui ne fumaient pas. Quand on veut allumer la cigarette, eh bien, on ne regarde pas la route, on regarde la flamme. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y avait plus d'accidents. Donc, le téléphone... Vous avez les voitures maintenant à l'intérieur, il y a l'équivalent, on dirait presque qu'il y a un téléviseur à l'intérieur, vous avez l'attention qui est captée. Tout ça, c'est dangereux. Voilà, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Voilà, vigilance de tous les instants.
Moi, je rebondirais simplement sur le point des réseaux sociaux, parce que je pense que tout a été dit au niveau du téléphone. Il faut bien avoir conscience que, ouais, c'est cool de faire le buzz. Quand on a 100 000, 200 000, 300 000 vues sur TikTok ou sur YouTube parce qu'on a fait un wheeling, parce que... Ok, d'accord. Cependant, l'important, c'est pas de se faire filmer, c'est pas d'arriver le premier. L'important, c'est d'arriver entier. Voilà. Il faut savoir que sur YouTube, il y a 80 à 90% des vidéos qui sont faites par des gens dont c'est le métier aujourd'hui. Quand on voit un gars qui fait un wheeling sur un kilomètre, il a 17 copains qui sont là, qui ont coupé les routes transversales, qui ont les takiwalki, qui ont dit « Ouais, c'est bon, il n'y a pas de voiture, on a arrêté toutes les voitures. » Et là, à ce moment-là, le YouTuber, il peut taper la frime en faisant un wheeling sur un kilomètre, etc. Mais toutes les conditions de sécurité, elles ont été mises en place avant. D'accord ? Ceux qui le font sans conditions de sécurité... Il y a des brigades spécialisées aujourd'hui dans les forces de l'ordre qui regardent des films sur YouTube, qui prennent les plaques d'immatriculation, qui prennent les repères, le jour, l'heure, la date, etc. Et qui essayent de choper les gens. Parce que se filmer en train de faire des wheelings en ville, c'est filmer l'infraction que je commets.
La route, c'est l'affaire de tout le monde. On peut être piéton, cycliste, conducteur ou trottinettiste. Il suffit parfois d'une seconde d'inattention pour que tout bascule. Alors, faites attention à vous. Profitez de la vie tout en restant responsable.
Un grand merci à nos invités Walter et Elvis pour leur témoignage sur InfoRC. C'était Chloé et Capucine sur le 88.6 et le 97.2.
Tous en mode bonne conduite!
L'action de prévention routière d'InfoRC est soutenue par l'auto-école Anne Boiron, Point S, la carrosserie Vernet, l'éducation nationale et la préfecture de l'Ardèche.
Terminus, tout le monde descend.